après elle est morte, va falloir conclure. Vue sur un grand lit le long d'un cosy sous gravure sépia de scène de plage. C'est à Berck derrière, l'hôpital. J'embrasse son front, ses jaunes blancs mauvais. Fuite des ombres mauves en pulpe de cupule sous plus d'œil du tout. Si mâchoire pend pas, c'est qu'ils l'ont collé ou ruban de coiffe, c'est la mentonnière. Si chair ne fond pas, c'est pour dans pas loin. Et l'oncle qui dit qu'elle va cocoter sous peu la mémé. Faudra pas tarder. Tarder quoi, tonton? La porter en terre. Quoi porter en terre du lac qui est là? La masse des varices, le gras qu'a pourri, le jus des urines, la glaire de ses moelles, l'essuyer du cul comme du vinaigre de vin d'intestin? L'étoupe des cheveux en guise de crin bourré dans le sac pour que casse pas les fœtus des os? La cire de bougie de ce qui fut viande et peau et ses lèvres? La neige, le carbone, le soufre, l'hydrogène et le diviser en redistribuer de ses molécules? Ça pédale en moi dans ses vomissures et le temps dérape. Comme je dérapais après bien avant sur le carrelage, mais j'avais ses seins alors qu'ils poussaient leur lait sur ma face. Elle me serrait fort et astique serviette pour que j'aie pas froid. C'est elle qui est froide et beurre de sa peau rancie sur le lit. Mets ton pyjama, pot de cause, elle me dit. Elle m'a bien séché. C'est elle qui est sèche. Sous moi qui me penche, il y a une momie qui fait la bossette. Sous petit piqué et l'amphore où plie déjà la momie comme fœtus au jus de formol en pot. C'est lui. C'est mon cœur. Elle va y brouter le blé qu'on a mis pour ses petites fins au cas où, peut-être. On ne sait jamais. Et boire à mon sang, je sens ses dents dedans qui grignotent. Je sens sa bouche. Je sens sa langue. Puis la nuit tombée, l'eau sale fila au trou de l'évier. Ma couille était propre et j'avais bien faim dans mon pyjama. Je ne pensais pas qu'on nous lapera. Je lapais. C'est tout, le lait et douceur de ses mains sur moi car elle me peignait pour deux sous de plus d'allure récurée. Et elle rigolait à cause des épis. Toutes dents brillaient sous la lampe basse. Elle rit. C'était joie. Rien puait autour, la rue ronronnait et les animaux violés dans la cour s'emmerdaient en paix. Elle est dans la paix aussi désormais, me disait maman. Et je fus alors avec parentèle à table en cuisine. Parenté baigna avec du larmois hors d'œuvre et entrée coco mimosa. On pleure déjà moins au venu du rot. Entremets, fromage, vin à volonté. Et quand vint dessert, à ce qu'on rigola. Puis tonton porta toast à la grand-mère et lui proposa une part de millefeuille en passant l'assiette à ras du naseau pour que la cadavre naguère bec sucré eût de l'appétit. Mais il fit manière et n'en voulut pas et même pas merci. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le souhaitez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est d'abord un prénom, une grand-mère. Un prénom est parfois un surnom singulier qu'on lui donne, qu'elle nous donne. Il est Podcause, elle est grand-mère Quéquette. Grand-mère Quéquette, c'est le titre d'un livre paru chez POL en 2003 de Christian Prigent. Le livre d'où est tiré l'extrait déroutant, lu en exorgue de cette émission. Déroutant par le style, par le rythme, par la crudité. Déroutant et captivant, une nouvelle expérience pour lecteurs en quête d'écriture et de grand-mères atypiques. Atypique aussi dans son genre, sa grand-mère, la vieille femme, ainsi nommée dans beaucoup de ses poèmes par mon invité que je suis ravi d'accueillir dans le studio, la poétesse Clara Regi, autrice entre autres de Furet, ce recueil paru en 2016 aux éditions Henri et qui parle d'une enfance avec petite grand-mère. Merci beaucoup Clara d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci aussi de m'avoir invitée, je suis très contente.
Clara, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères?
Alors ma première grand-mère, celle dont il est question dans Furet, avait pour prénom Alix, mais en fait tout le monde l'appelait Alice. J'ai su très tard qu'elle s'appelait en fait Alix. Et mon autre grand-mère que je n'ai pas connue s'appelait Pierrette.
Alors c'est quoi l'histoire de Pierrette que tu n'as pas connue? Est-ce que tu as quand même parlé d'elle avec d'autres? Il y a des souvenirs d'elle qui existent?
Ma grand-mère Pierrette a eu mon père très jeune. Alors je n'ai pas exactement eu toute l'histoire, mais je sais qu'elle a... Mon père a été mis dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs et ma grand-mère, Pierrette, a été envoyée au couvent et a terminé sa vie en tant que bonne sœur. Et la seule photo que j'ai vue de ma grand-mère Pierrette, c'est très triste, c'est sur son lit de mort en bonne sœur. C'est un peu... Voilà.
C'est une vie subie, quoi, un destin non choisi.
Je pense que c'était terrible. Mais mon père était né en 28, donc à cette époque-là, j'ai cru comprendre que peut-être Pierrette était employée chez des châtelains et que peut-être mon père est né d'amour, j'espère, coupable, comme on disait.
Tu dis j'ai cru comprendre, ça veut dire qu'à un moment dans ta vie, tu as questionné un petit peu ce côté-là de la famille, les grands-parents, Pierrette, tu as cherché à savoir qui ils étaient.
J'ai un peu questionné mon père, mais il était très très discret sur le sujet, et je crois qu'il ne voulait pas en parler, et comme il a aucune autre famille, enfin comme on a connu aucune autre personne de sa famille, j'ai arrêté parce que ça le gênait. On avait fait des petites recherches, mais on n'a jamais trop su. Dans les familles, il y a souvent des mystères, des secrets, et là, bah voilà, le mystère de la famille.
Et puis ce genre de quête vaut la peine aussi dès lors qu'elle ne crée pas de douleur chez ceux qu'on interroge. J'imagine que ça, c'est la limite aussi. Souvent, on est confronté à ça et on comprend qu'il ne faut pas réveiller des chagrins et faire du mal aux gens de sa famille avec tout ça.
Exactement. Et en plus, je me disais, bon, ben, quand il sera mort, ben là, il vient de mourir. Donc, je me disais, je continuerai à faire les recherches. Et puis là, non, parce que je sais qu'il n'aurait pas voulu. Donc voilà, ça reste Pierrette, l'inconnue, morte dans sa robe de bonne sœur. Et voilà.
Et on pense à Pierrette aujourd'hui, voilà. et aussi donc à Alice. Donc ouais. Et toi, Alice, comment tu l'appelais toi quand tu étais enfant?
Mémé.
C'était Mémé.
C'était le nom qu'on donnait aux grand-mères à la campagne. Il y avait Mémé et Pépé. Il y avait pas. Puis ça lui allait bien, Mémé.
Il y avait pas de fantaisie à l'époque comme aujourd'hui dans les surnoms.
Oui. Non, mais c'était. En plus, ça lui allait très bien. Puis les deux Mémé, tout est dedans. Le M qui ressemble un peu à maman et tout ça, sauf qu'elle n'était pas très maternelle, mais je trouve ça joli, Mémé. Alors que sur le moment, je trouvais ça un peu bébête, mais maintenant, je trouve ça très joli, Mémé.
Dans la sonorité.
Oui, puis dans ce que ça convoque comme image, petite Mémé. C'était une petite Mémé, voilà. En plus, petite, réellement, petite Mémé tout en noir.
Et puis, c'est un terme qui appartient à un passé, quoi, peut-être. Il y a une nostalgie aussi à l'intérieur de ces deux syllabes.
Ouais, je la vois, en fait. Ouais. Enfin, oui, des souvenirs, nostalgie, oui, un petit peu les deux. Enfin, il faut aller de l'avant. Hein.
Tu la vois, essaye aussi de nous la faire voir, à quoi elle ressemblait.
Alors, elle était toute petite, mais vraiment petite. Hein. Je pense qu'elle faisait même pas 1m50. Elle était toute menue, et en fait, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait les jambes arquées, et vraiment... comme ça pouvait arriver dans le temps, parce qu'on ne faisait pas tellement attention. Et elle avait marché un peu en claudiquant, mais sans vraiment... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle faisait des efforts pour marcher à peu près droit, ou si ça venait tout seul, mais c'était assez drôle. Et elle était très maigre, elle ne supportait pas les vêtements larges. Donc, elle avait des blouses qui étaient toujours trop grandes. Et elle avait une ceinture en coton de la couleur de la blouse. Hein, ça devait s'acheter avec la blouse. Et elle la serrait, mais alors à un point... Donc on voyait sa taille de guêpe, voilà. Et elle était toute en noir. Et elle avait une coiffe pour aller à la messe, une petite coiffe noire là, une petite dentelle, des chaussures noires, des bas noirs et la peau très blanche. Donc quand on apercevait ses cuisses blanches, c'était rigolo sous les bas en fait. C'était pas des collants à l'époque. Et elle parlait d'une façon assez saccadée. Elle n'était pas du tout dans la douceur, mais elle était brave. Mais un peu, j'étais un peu, j'avais pas peur, mais j'allais pas la chatouille, voilà.
Et c'est marrant comme tu l'as décrit, on a l'impression presque d'une créature avec aucun aspect péjoratif dans ce mot-là, dans l'utilisation de ce mot-là. Il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Le mot brave, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'elle avait de brave?
Elle était déjà très 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 catholique et elle défendait toujours son Jésus, mais même avec bravitude, hein, comme avait dit Ségolène Royal. Même quand c'était ridicule, elle était capable de défendre de pardonner des douleurs parce qu'elle pensait que quelqu'un qui a souffert sur terre sera choyé au ciel ou des choses comme ça. Elle avait des tas d'idées comme ça et on pouvait pas la sortir de ces idées-là. Et elle était brave parce qu'elle était aussi très travailleuse. C'était l'époque de la traite à la main. Donc dans l'étable, il faisait un froid de canard. Elle avait son seau, la tête contre le pied de la vache, pas le pied, mais au-dessus du pied pour pouvoir traire la vache. Et ça durait des heures et elle partait au champ, enfin, elle partait avec sa brouette et son linge, lavait son linge au lavoir dans l'eau froide, enfin et puis faisait ce qu'ils appelaient des grandes buées pour les draps dans des grandes gamelles où on aurait pu en mettre 10 comme elle dans la grande gamelle. Enfin, c'était pas une gamelle, c'était une bassine, un truc énorme. Donc, un tout petit personnage qui bougeait beaucoup, mais qui ne faisait pas demi-tour, en fait. Je la vois toujours partir, elle partait toujours, elle allait droit devant elle dans tout ce qu'elle faisait. Voilà.
C'est intéressant, toi, l'image que tu as d'elle, c'est elle au loin, de dos, allant, quoi. Allant quelque part, allant exécuter une tâche, a priori, un peu ingrate, quoi.
Toujours, oui. J'ai peu discuté en fait avec elle. Bah, déjà, on n'était pas souvent d'accord, mais elle était présente. Mais elle n'était pas dans la discussion, elle n'était pas dans le discours. Elle était dans le faire toujours. Et après, quand elle a vieilli, c'est complètement adouci. Elle avait parlé un petit peu plus. Puis après, elle a perdu la tête.
Elle était dans le faire. Donc, on a compris un petit peu à ce que tu nous dis qu'elle s'occupait d'une ferme. C'est quoi ? C'est elle s'occupait d'une ferme toute seule. Il y avait des champs, il y avait des animaux. C'était quoi son métier ?
Ouais, c'était très très à l'ancienne parce qu'en fait, mes grands-parents étaient métayers. Donc, il y avait les châtelains qui habitaient à côté. Et il y avait mon oncle célibataire qui avait sa chambre, et il y avait mon oncle marié qui avait sa chambre aussi, et mes grands-parents dormaient dans la cuisine à côté de la cheminée. C'était vraiment incroyablement à l'ancienne. Et ils vivaient tous ensemble, et s'entendaient bien en fait. Donc ils se partageaient les tâches, et Bon, ils cultivaient du blé. Enfin, il y avait des vaches, il y avait des chevaux. Et ils étaient vraiment très... Pour l'époque, ils étaient vraiment... Ils cultivaient la terre de façon vraiment à l'ancienne. Alors déjà, il y a longtemps, mais en plus, ils n'étaient vraiment pas au goût du jour. Ils refusaient toute modernité.
Oui, c'était très, très manuel, très lent, mais aussi un savoir-faire aussi.
Ouais, incroyable. Il y avait la tuerie du cochon qui était une grande fête où il y avait les voisins qui venaient, enfin, les autres fermiers, ils se partageaient les morceaux et tout ça. C'était vraiment à l'ancienne.
Et toi, ça se passait où ça déjà? C'était où?
C'est dans le Poitou. Et en fait, ils étaient Vendéens au départ. Ils ont quitté la Vendée parce que le château dans lequel, enfin, pour les châtelains pour lesquels ils avaient travaillé ne pouvaient plus. Revendaient le château et la ferme. Et en fait, c'était pas très loin, mais ils se sont promenés, enfin, ils sont arrivés en charrette. Et pour eux, c'était comme s'ils avaient franchi une mer ou un océan, d'avoir fait seulement, je sais pas moi, peut-être 200 kilomètres. Et ils étaient perdus au début dans le Poitou. Vraiment perdus. D'autant plus qu'il y avait des différences au niveau du langage. Parce que ma grand-mère parlait vraiment le patois vendéen, mais à un niveau très très élevé. Donc parfois je comprenais pas tout ce qu'elle disait aussi. Donc ils ont transporté leur langage et ils ont été obligés de s'habituer à la langue un peu du Poitou qui était quand même un petit peu différente.
Ouais, pour eux ça a été un grand voyage, une grande transition, un énorme changement.
Un exil.
Ouais, c'est oui. Ça.
Alors que c'était un peu la même vie. Puis la ferme n'était pas très moderne, il n'y avait pas de toilettes, il y avait de l'eau froide. Une autre époque.
Ouais, très, très une vie âpre, vue d'ici, vue d'aujourd'hui.
Âpre, oui.
Et toi, Clara, tu y passais beaucoup de temps, tu allais passer des vacances, c'était quoi tes temps de présence là-bas?
Pratiquement toutes les vacances, en fait, beaucoup sans mes parents.
On t'emmenait là-bas et tu passais toutes les vacances?
Non, je prenais le car. Je prenais le car à Angers, là, sur la place des cars, et ça durait 3 heures, je crois, 2h30 le voyage. Puis j'avais mal au cœur dans le car, comme toujours d'ailleurs, j'ai toujours le mal du voyage, et j'ai des souvenirs de voyage. Et après, arrivé à Poitiers, mon tonton Marcel venait me chercher dans une énorme voiture dans laquelle il transportait plein de choses. y compris parfois des animaux. Donc je descendais du car où j'avais déjà... Et après, j'arrivais dans la voiture de tonton Marcel. C'était une horreur. Et
oui, quand j'imagine les odeurs.
Ah, c'était horrible. Et par contre, les odeurs de bouse de vache et tout ça, j'aime bien. Même toujours, j'aime bien les odeurs de bouse de vache. Fraîche.
Ça te remet dans cette atmosphère, ah, ça te fait repenser à cet endroit.
Et quand je suis dans un train ou quand je conduis et que je passe, et que j'aperçois un champ avec des vaches, je suis toujours émue. J'adore les vaches.
Tu leur parles ? Moi, je leur parle quand je suis à vélo et que je croise des vaches.
Ben, je les aime. Je sais pas, peut-être que c'est même pas la peine de parler. Je les aime. Elles sentent que je les aime. Mais je les ai conduites aussi au champ avec un petit bâton. Enfin, j'avais un peu peur, mais voilà, j'aime les vaches. Voilà, j'aime les vaches.
Il faudrait explorer cette tendresse naturelle qu'on ressent, qu'on ait beaucoup à ressentir pour les vaches, mais ce sera l'occasion.
Ouais, j'ai trop de pudeur.
Et du coup, donc tu le temps des vacances, donc Alice était là, tu la voyais beaucoup. C'est quoi un petit peu les souvenirs forts, les moments? Tu nous as un petit peu parlé d'elle, mais on a compris que la conversation était compliquée ou que ça se heurtait un petit peu. Il y avait des confrontations quand même de vision. Tu étais déjà encore adolescente quand tu y allais. Comment ça se passait les échanges?
Mais même petite, hein, c'était pas terrible. Je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup, mais tardivement. Au moment des repas, c'était quand même... Parce que je mangeais pas la même chose que chez mes parents. Et à la ferme, on doit manger quand même tout ce qu'il y a. Il faut finir l'assiette et tout ça. Et elle m'obligeait à manger de la soupe avec des pâtes, là, des trucs, voilà. Et il fallait pas boire un verre d'eau avant de commencer à manger parce que ça coupait l'appétit. Enfin, il y avait des tas de principes qui étaient quand même un peu difficiles. Et le gros jambon de cochon qui pendait dans la cheminée, repassé au beurre, je ne pouvais pas. Enfin, je le mangeais quand même, mais c'était horrible. Je prenais sur moi pour les repas. Par contre, ma grand-mère, pour le goûter l'après-midi, pour les hommes, elle faisait ce qu'on appelait le migé, c'est-à-dire la soupe au vin. Et j'ai commencé à... Je mangeais cette soupe au vin, mais j'avais, je sais pas moi, 6-7 ans. Donc après, j'avais chaud. Et c'était ça, c'est un super souvenir, vraiment, comment dirais-je, au niveau des sens, quand même très, très remuant. Parce que je repartais dans les champs sur le tracteur et j'avais bien chaud. Et c'était vraiment sensuel, en fait, cette soupe au vin-là. J'adorais ça.
Il y avait... c'était une ivresse, une sensation d'ivresse.
Une ivresse, oui. Je pense que c'est les premières ivresses de ma vie, mais ça commençait tôt parce qu'il n'y avait pas de problème. Et ils faisaient aussi une espèce de vin pas très bon et souvent on m'en mettait avec un petit peu d'eau.
Oui, c'était des époques où on questionnait pas trop ça, on donnait ce genre de choses à l'enfant, il n'y avait pas de problème. Enfin,
bah oui, mais c'était. Oui, mais ça j'aimais bien. Et
j'insiste sur le mot sensuel que tu as employé, c'est-à-dire que c'était des états qui t'ont fait découvrir aussi le monde autour de toi avec un éveil des sens particuliers que tu avais pas connu jusque-là. C'était de cet ordre-là.
Ouais, je pense. Ouais. Mais un truc qui n'a rien à voir, mais quand même, j'ai assisté donc. J'étais déjà grande, hein, parce qu'après j'ai été maman et sans rire, j'ai assisté à la mise bas d'un veau, je sais plus, on dit comme ça. Donc j'ai aidé à tirer sur les pattes là. Je pense que j'en parle d'ailleurs dans le recueil. Et ça a été un moment que j'ai trouvé d'une vraiment sensuel, quoi, voire sexuel de tirer. Enfin, c'est peut-être pas sexuel, c'est peut-être un peu fort, mais de voir tous ces bras qui tiraient sur cet enfant, la vache en fait, la vache, la maman quoi, qui souffrait, et l'arrivée de son enfant qui était magnifique. Et c'est l'année d'après que j'ai accouché moi-même. Enfin, ça peut paraître bête. Donc là, j'étais plus une petite fille, hein, mais je trouve qu'il y avait je trouve que la vie à la ferme, c'est extrêmement sensuel. Il y a tout, il y a les odeurs, il y a les bruits, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on imagine aussi. Enfin, je trouve ça, voilà. Et je voulais être fermière. Bon, maintenant, ça m'est un peu passé, mais j'avais vraiment envie d'être fermière. L'odeur du lait aussi, que je suis incapable de boire, hein, mais l'odeur du lait dans les seaux, là, le lait qui fume, c'est...
Ouais, c'est toute une atmosphère qui alerte, éveille les sens. Et tout ça, ce que tu viens de dire, il y a eu un échange là-dessus avec ta grand-mère, avec Alice, à la fin de sa vie. Tu disais qu'elle s'est un petit peu ouverte, même si elle n'était pas très, très tendre, très maternelle quand tu étais enfant. Il y a eu une ouverture à un moment donné?
Non, parce qu'elle m'aurait dit que j'étais folle et que je racontais des choses compliquées, alors que c'était... Ah, c'est rude, hein, tu sais.
Oui, elle, il y avait le discours était assez élémentaire, ouais. La tâche, on imagine bien les principes liés au catholicisme et puis.
Oui, mais justement le catholicisme, même si je partageais pas forcément son idée, mais son amour de Jésus, c'est exactement ce qui la conduisait à dire des choses plus tendres et ça avait un côté quand même agréable.
Oui, ça l'apaisait.
Ça la portait.
D'accord.
J'ai eu un peu la même chose après à la maison.
C'est-à-dire ?
J'étais élevée d'une façon hyper catholique.
D'accord, ok. Donc ça, c'était récurrent entre les deux atmosphères.
Ouais. Et j'ai commencé à l'école catholique, après j'ai changé, mais c'était important en fait dans la famille.
Clara, est-ce que tu as parlé un petit peu du recueil, je l'ai cité aussi pendant l'introduction, donc c'est un projet qui est paru aux éditions Henri, qui s'appelle Furet. Un recueil de poèmes où il s'agit de ta grand-mère, de ton enfance, de ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous le présenter ou nous lire quelques petits poèmes ou nous en parler après, fait dans le sens que tu préfères.
Je vais prendre en fait des textes au hasard parce que là ça concerne le jour où on tue le cochon. Le couteau aiguisé, lui étrangement. Et creuse un collier liquide. Le cochon coule dans un seau. Je pleure. Et la ceinture que j'ai évoquée. La ceinture de coton étrangle son sarrau. Elle n'aime pas le vide. Élastique de ses bas ne respire pas. Élastique de ses bas ne respire pas même le dimanche. Tous ses plis de chiffon sont collés sur sa peau. Elle est toujours si vieille. La cuvette de fer est pleine d'eau fumante. Elle s'en va dans la cave bien sombre. Curieuse, j'escalade le mur, découvre les jambes d'un petit corps luisant de savon chaud. Et c'est presque joli comme poupée fragile qu'il faut vite essuyer. De peur qu'elle ne prenne froid. Donc on voit que j'étais partagée, là on ne le voit pas forcément, entre la peur et puis la mort des animaux et tout ça, et quand même un amour que j'ai découvert après pour ma grand-mère qui était fragile en même temps, qui était dure dans le langage, dans le comportement, mais son petit corps nu et était vraiment un petit corps fragile, et je pense que le corps il est important aussi dans une personne. Donc elle avait deux... Elle était composée de deux oppositions, ce qui est pas forcément rare, mais là c'était vraiment très fort.
Et tu parles d'un sentiment d'amour, c'est-à-dire que ce sentiment d'amour, tu l'as ressenti, il s'est révélé à un moment donné, un peu plus tard, c'est ça ?
C'est-à-dire que je pensais que je ne l'aimais pas, mais je pensais qu'elle m'aimait pas. De toute façon, quand on est enfant, parfois on est un peu bizarre. Et après, je me suis rendu compte que si quelqu'un avait eu le malheur de dire du mal d'elle, même un tout petit truc, j'allais aller lui casser. Alors je vais être naturelle, la gueule, mais je l'aurais défendue même sur des choses pour lesquelles je savais qu'elle avait tort. Voilà, et c'est comme ça, c'est un peu ça aimer aussi.
Ouais, en tout cas c'est quelque chose qui révèle ce sentiment-là, quoi, de défendre à tout prix, d'être complice de tous les crimes potentiels de la personne, quoi. C'est ça aimer.
Voilà. C'est ça aimer. Enfin, c'est une façon.
Ça peut être aimé.
Ça peut être.
Dans certains des poèmes que tu nous as lus, on a entendu quelques mots, et dans le recueil, il y a des motifs comme ça de répétition un peu qui la décrivent assez peu. Donc il y a la vieille femme, il y a son chignon, il y a le sarrau aussi. Ce mot, il est incroyable. On parle plus de sarrau. C'est quoi ? C'est un vêtement. Tu nous en as parlé un petit peu de ces vêtements au début de l'émission, mais c'était quoi ce sarrau ?
Alors le sarrau, c'est une blouse. C'était pour elle, en l'occurrence, c'était une blouse noire avec des boutons noirs et une ceinture noire. Et c'est vraiment l'objet qui la caractérise le plus, le sarrau.
Elle portait toujours ça.
Sauf le dimanche, où elle mettait une petite robe avec des petites fleurs blanches. Et je pense qu'elle avait sa robe du dimanche. Je pense que selon les saisons, c'était avec des manches courtes ou des manches longues, mais c'était, je pense que c'était même carrément le même tissu. C'était la couturière qui faisait ça.
Et ces poèmes-là, de ce livre Furet, dont tu as lu quelques extraits, il est venu quand ce projet, elle est venue comment cette écriture, cette envie de parler d'elle?
Avant d'être publiée, enfin ça fait longtemps que j'écrivais et j'avais beaucoup de choses qui étaient inspirées par ma vie à la ferme. Et le personnage de ma grand-mère, il s'est révélé comme très important à ma grande surprise en fait. Parce que c'est vraiment le personnage qui m'a le plus fascinée. Et mon grand-père était très doux, très gentil, adorable. Il nous racontait des histoires. C'est vraiment le grand-père. C'est l'époque où on faisait des petits moulins dans les rivières et tout ça. Il nous apprenait à faire plein de choses. Mais là, elle, qui n'était pas facile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un autre terme récurrent, c'est 20 hectares. En fait, 20 hectares, c'est la plaine, c'est la plus grande parcelle de terrain sur laquelle il y avait le blé. Et 20 hectares, ça suppose en fait une distance, en fait, ici, ça symbolise l'éloignement avec ma grand-mère. J'étais à 20 hectares d'elle. Et je me suis rendu compte après que non, j'étais pas à 20 hectares, que le champ avait largement rétréci dans mon cœur.
Mmh. Oui, on sent vraiment ça, que dans ton... Tout conduit à ça, dans ton regard d'enfant, c'était quelqu'un qui était lointain. Tu la vois au loin s'éloigner. Il y a très peu de mots, il y a un mystère autour d'elle qui crée une fascination dans ton regard d'enfant, qui se transforme avec le temps et qui se révèle être amour en fait.
Ouais, mais en plus, elle semblait donc très dure, mais quand tonton Marcel reprenait sa voiture pour me conduire au car, pour que je rentre à sa venière.
Le départ,
eh ben, elle pleurait. Elle avait une petite larme, puis elle voulait pas le montrer. Et alors, comme elle avait toujours son mouchoir, elle faisait semblant d'être enrhumée. Là, elle sortait sur son... Comme elle était habillée toujours en noir, et que le blanc, à cette époque-là, c'était vraiment du blanc-blanc, hein, donc elle sortait son mouchoir blanc. Et la dernière image, c'était la mémé toute petite qui se mouchait avec son mouchoir tout blanc... avec sur son corps tout noir, et c'était triste et je ne comprenais pas en fait. Mais en fait, elle était sensible, quoi.
Et là encore, tu la voyais de loin, quoi. Tu la voyais, c'est toi qui bougeais, mais elle s'éloignait.
Ah ben les embrassades et tout ça, non.
C'était... Oui, il n'y avait pas d'effusion de joie, d'étreinte, mais tu te souviens de cette larme.
Ouais, les petites larmes. Elle a dû me prendre sur ses genoux quand j'étais petite, mais c'était pas du tout. Non, elle avait un rapport quand même assez. On était distantes physiquement.
Alors Clara, il est déjà l'heure de mettre un point final à cette conversation grand maternelle. Merci beaucoup d'être venue partager les souvenirs de Pierrette et d'Alice dans le studio de Radio G.
Alix
ou Alice?
Oui. Bah, sur sa carte d'identité, c'était Alix.
Donc c'est Alix. Merci à vous les auditeurs, les auditrices pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte comme d'habitude en littérature avec un texte choisi et lu par notre invité.
Alors j'ai choisi un extrait de « Dos au soleil » de Frédéric Germano, où elle parle de sa grand-mère. Je ne donnerai pas plus, je ne contextualiserai pas l'extrait. « Tu n'es pas trop congelée ?» me demandait ma grand-mère à tout bout de champ, prenant le téléphone parfois pour me poser cette unique question. Elle ne se sera jamais habituée aux températures d'ici. Bien qu'habitant une région clémente de France, un pays doux des bords de Loire. Elle transposait sur moi sa peur du froid. Sur son corps amaigri par la vieillesse, elle entassera des couches de vêtements. J'en suis à faire de même. Nos corps se rejoignent à 50 ans de distance et finiront par se superposer. Je la revois recroquevillée dans un fauteuil trop grand pour elle, ayant perdu la faculté de s'inquiéter pour moi, ne me reconnaissant pas. Retourner chez elle. Qui était-elle dans ce temps rayé qui passait en boucle? Où était-elle? J'enfile un pull, ferme les volets, allume du feu dans la cheminée. Donc, Dos au soleil de Frédéric Germano au Réalgar, enfin, aux éditions Le Réalgar.
Heaven people, so heavenly trapped. What comes first is the voice in your head, it's you. Show.